chapitre 70. Ils ne la trouvent pas. Cela fait maintenant 10 ans qu'Axel et Zachary Wells grandissent côte à côte, comme s'ils étaient frères et sœurs. Cet après-midi-là, alors qu'elle s'est calfeutrée dans la souche creuse d'un arbre, la fillette comprend que Zachary n'arrivera pas à la trouver. Sa cachette est trop bonne. Elle décide donc de renoncer à attendre et de se montrer.
« Zachary ! J'ai gagné ! Je suis là !»
Personne ne répond. Elle annonce plus fort.
« C'est encore moi qui ai gagné la partie de cache-cache !»
Pas de réponse. Son frère n'est pas là. Axel regarde autour d'elle. Elle est seule au milieu de la forêt enneigée. Elle décide de rentrer à Val Thorens. Mais avec ce paysage recouvert de poudre blanche uniforme et tous ses sapins, elle ne reconnaît plus rien. Elle s'arrête parfois pour crier.
« Zachary ! Zachary ! J'arrête de jouer ! Je suis là !»
Elle se dit que certaines victoires sont plus compliquées à vivre qu'une défaite.
« Eh oh, Zachary !»
Soudain, elle entend un bruit derrière elle.
« Zachary ? C'est toi ?»
Les bruits s'accentuent, on dirait des pas très lourds. Axel se retourne. Devant elle, une silhouette beaucoup plus grande et beaucoup plus poilue que Zachary, avec dans la gueule d'énormes canines que la bête exhibe dans un souffle bruyant. Un ours brun. Il est à quelques mètres d'elle. L'animal se déplace en position tantôt bipède, tantôt quadrupède. Il l'observe de ses yeux ronds et remue son museau pour bien percevoir son odeur. Et celle-ci ne semble pas du tout lui plaire.
« Tout doux, tout doux !»
dit Axel en reculant et en essayant de ne pas montrer sa terreur. Mais l'ours continue d'avancer vers elle. Elle se met à courir, poursuivie par l'immense animal qui pousse des grognements de colère en voyant sa proie qui s'enfuit. La lourde masse fend la neige, fait trembler le sol et écrase les broussailles. Axel n'appelle même pas au secours. Que peut faire une petite fille face à un tel colosse? Elle court de plus en plus vite, en vain. L'ours, plus puissant et plus rapide, se rapproche. Soudain, elle trébuche sur une racine et tombe le visage dans la neige. Quand elle relève la tête, elle entend la respiration du fauve toute proche. Elle peut même sentir son odeur. Elle se met lentement debout, avise une branche au sol qu'elle saisit pour s'en faire une sorte de lance protectrice. Mais l'ours, d'un coup de patte puissant, fait virevolter l'arme comme une brindille. Axel recule.
« Non !»
dit-elle sur un ton ferme.
« N'approche plus !»
L'ours montre les dents. Quand une voix derrière l'enfant chuchote
« Je crois que t'as gagné !»
Dans son dos, Zachary tient une grosse pierre dans une main et un bâton dans l'autre.
« Je me demandais où tu étais caché. J'ai cherché partout. Tu m'as bien eu. »
lance-t-il pour essayer de détendre l'atmosphère.
« C'est-à-dire que lui m'a trouvé avant toi. »«
Passe doucement derrière moi. »
Sa voix chevrotante trahit sa propre terreur. Axel s'exécute sans quitter le plantigrade des yeux. Zachary lance alors de toutes ses forces la pierre et blesse l'ours à l'œil. L'animal, furieux, fonce gueule ouverte vers le garçon rouquin. Axel ramasse une autre pierre et l'envoie à son tour, parvenant à toucher l'animal au menton. Le plantigrade fait claquer ses mâchoires et donne des grands coups de patte que les deux enfants évitent de justesse jusqu'à ce que les longues griffes coupantes touchent leur cible et arrachent le bras d'Axel au niveau de l'épaule. Zachary reste un instant stupéfait.
« C'est pas grave !»
dit la petite fille.
« Continue !»
Le garçon saisit un morceau de bois long et pointu qu'il tient comme un poignard. Il parvient à l'enfoncer profondément au niveau de la veine jugulaire de l'ours. Du sang gicle. L'animal pousse un hurlement. Profitant de ce répit, Zachary aide Axel à se relever. Les deux enfants s'enfuient. Lorsqu'ils sont à bonne distance, ils s'arrêtent pour retrouver leur respiration et constatent que l'ours ne les a pas suivis.
« Ton bras !»
s'étonne le garçon.
« Il ne saigne pas !»
Les deux enfants regardent l'épaule blessée d'Axel, L'os affleure, mais il n'y a pas de sang. La chair jaune, un peu translucide, ressemble à de la gelée.
« Attends !» dit Zachary. « Je vais chercher ton bras !»
Et avant que la petite fille ait essayé de l'en dissuader, il fait le chemin en sens inverse, vérifie que l'ours ne traîne plus dans les parages et ramasse le bras sectionné. Puis il rejoint Axel et ensemble, ils retrouvent leur chemin jusqu'au chalet de Benjamin et Alice. Alice, qui a désormais plus de 70 ans, chausse ses lunettes et examine la plaie.
« Nous jouions à cache-cache et nous avons croisé un ours. Mais la bonne nouvelle est que j'ai pu récupérer le bras. »
Zachary montre le membre coupé. Alice observe l'épaule déchiquetée et le bras désolidarisé du reste du corps. Les doigts frémissent encore comme pour manifester leur existence.
Dans le jardin de mes parents, j'ai un jour vu la queue d'un lézard coupée par un coup de patte de chat agiter des mêmes spasmes nerveux.
Tu as mal ? Demande Benjamin.
Non, ça picote juste un peu au niveau de la coupure.
Benjamin, dont les cheveux sont maintenant gris, regarde lui aussi le bras sectionné. Alice s'intéresse à l'épaule de l'enfant à la peau jaune translucide, aux yeux dorés et aux cheveux rouges à pointe foncée.
Axel serait donc vraiment immortel.
Axel bénéficie de la néoténie des axolotls, explique-t-elle. Benjamin repose le bras sur la table basse du salon. Le membre coupé semble déçu d'être abandonné et s'agite en se pliant au niveau du coude.
« Que va-t-il devenir ?»
demande Zachary. En théorie, il pourrait faire repousser le corps tout entier, car les cellules ont toute la programmation globale d'Axel. Cependant, vu qu'il n'y a pas le moindre bout de cœur ni de cerveau, je pense qu'il va finir par dépérir, répond Alice.
« Pourquoi une partie continue-t-elle de grandir et pas l'autre ?»
interroge Zachary. Axel explique.
« De ce que je sens, le morceau de corps qui repousse en totalité est celui où se trouve le plus de conscience. Et, en effet, comme dit maman, c'est le morceau où il y a le plus de cerveau.
Donc, si l'on coupait ta tête en deux, en sectionnant le cerveau pile au milieu, il y aurait un dilemme. Est-ce que la conscience est plutôt dans une moitié ou dans l'autre ?
Demande Zachary, intrigué.
Je n'avais jamais pensé à ça.
C'est mon esprit qui décide où il préfère se nicher,
dit Axel.
Il choisit le morceau où il y a le plus de cerveau, car c'est là où il pourra le plus rapidement être opérationnel.
C'est passionnant,
réagit Zachary, admiratif.
Et après ?
Toujours selon le principe de la néoténie, Axel devrait voir son bras repoussé, dit Alice en remontant ses lunettes sur son front. Reste juste la question, en combien de temps repousse un bras complet avec la main, les doigts, les ongles ? La réponse arrive 5 semaines plus tard, quand le bras d'Axel, la petite fille axolotl, a entièrement repoussé. Jour après jour, les capacités de l'enfant salamandre ne cessent de surprendre les deux vieux scientifiques. Alors qu'ils l'observent de loin jouer avec Zachary, Alice déclare « Axel est unique. Pourtant, elle est capable à elle seule de peser autant dans l'écosystème que ses 3 cousins hybrides. C'est comme si nous avions remplacé la quantité par la qualité. » Le fait qu'elle voit ses membres abîmés repousser et qu'elle ne soit pas programmée pour mourir ouvre des perspectives nouvelles, dit pensivement Benjamin. Il prend sa compagne par le coude et l'aide à monter la volée de marche qui sépare le jardin du chalet. Alice souffre de crises de rhumatisme qui la handicapent ponctuellement dans ses déplacements. Elle, qui est si dynamique, s'en trouve fortement agacée. Axel pourrait, à elle seule, être une sorte de réceptacle de notre culture, de nos découvertes scientifiques et de nos valeurs, réfléchit à voix haute Alice. Si une autre crise comme la guerre mondiale que nous avons connue il y a 40 ans survenait, elle pourrait faire renaître une civilisation. De fait, à partir de cette époque, les deux enfants ont beau être élevés ensemble, l'éducation d'Axel diffère de celle de Zachary. Selon les termes d'Alice, La petite fille salamandre doit devenir en même temps une femme de lettres et une femme de chiffres. Elle doit connaître l'art et la science. Elle doit accumuler un maximum de savoir et un maximum d'intelligence pour être une sorte de garantie que le monde ancien pourra lui aussi se régénérer, comme ses membres blessés ou coupés. Ce riche enseignement est cependant si intense qu'il en est épuisant pour Axelle. Consciente des attentes illimitées de sa mère, elle a proposé de transformer les cours en jeux qu'elle invente elle-même. Pour l'histoire et la géographie, ils sont basés sur la mémoire, sur des énigmes pour la chimie et la physique, sur l'adresse pour le sport. Elle n'apprend pas dans la peur d'échouer, mais dans la joie de découvrir et d'expérimenter. Pour se détendre, Alice propose souvent à Ophélie une grande marche en montagne. Les deux femmes aiment partager ces moments loin du tumulte. Vêtue d'un anorak épais rose, la mère remonte l'avenue principale de Val Thorens au bras de sa fille, qui porte un anorak mauve. Ophélie est impressionnée par la vitalité de sa mère, qui, malgré son âge et ses petits soucis ponctuels de rhumatisme, reste toujours partante pour faire du sport, voyager, se lancer dans de nouveaux projets. Paradoxalement, à presque 40 ans, Ophélie se sent plus casanière que sa génitrice. Elle aime rester tranquille à la maison avec son compagnon Jonathan et leur fils Zacharie. Pour elle, la soirée idéale consiste à lire au coin du feu, tout en écoutant de la musique classique et en buvant du thé. C'est sa mère qui, chaque fois, la pousse à sortir de la routine. Elles gravissent un chemin pentu. Jamais à bout de souffle, Alice ne cesse de discuter. De ses lèvres s'échappe un nuage de vapeur. « Axelle m'impressionne, mais elle m'inquiète aussi », déclare-t-elle. « Elle ne sait pourtant ni voler, ni nager, ni creuser. Pas de quoi t'inquiéter comme tes autres créations. » Elle sait réfléchir. Tu as vu comme elle excelle dans tous les jeux de logique. Elle adore se surpasser. Elle est affamée de connaissances. Je reconnais qu'Axelle est beaucoup plus mature que Zach, dit Ophélie, même s'il profite de la vivacité d'esprit dont elle fait preuve. Ça le motive pour apprendre plus vite. Elles arrivent sur le terrain plus plat, entre neige et caillasse. Je les observe, moi aussi, reprend Alice. Ensemble, ils jouent à tous les jeux de stratégie, de mémoire, de résolution d'énigmes. Des jeux qui entretiennent leur complicité, même si Zacharie se rend bien compte que pour ne pas humilier celui qu'elle nomme son frère, Axelle fait souvent exprès de perdre. C'est extraordinaire, reconnaît Ophélie. Ces deux-là sont une sorte de formule idéale de synergie entre deux âmes qui s'améliorent mutuellement. Peu de couples partagent une telle complicité. Ma mère, ma fille, mon petit-fils, chaque génération a le même défi à relever que la précédente, faire vivre leur amour. Alice a trouvé un bon rythme de marche, mais un peu trop rapide pour sa fille, qui commence à avoir quelques difficultés à la suivre. Au-delà de l'éducation que nous lui avons donnée, Axelle a des mécanismes de pensée liés à son espèce qui lui permettent de trouver des solutions originales. Quel genre de solution ? Demande Ophélie, un peu essoufflée. Par exemple, elle analyse son interlocuteur pour toujours dire ce qu'il a envie d'entendre. T'as raison. Et ce, même si elle ne le pense pas. De même, elle adapte son vocabulaire pour lui donner l'impression qu'il parle le même langage. C'est plutôt un comportement de caméléon, ça, pas de salamandre. Elle rit. C'est de la stratégie, enchaîne Alice après avoir retrouvé son sérieux. Elle arrive ainsi à paraître sympathique à tout le monde. Elle sait même parfaitement parler le jargon aérial. Ça, c'est de la séduction, remarque Ophélie. Du haut de ses 10 ans, c'est déjà une sacrée séductrice, c'est vrai. Tu as vu comment elle sait mettre en valeur ses étranges cheveux rouges et noirs? Ça promet. En tout cas, avec ce 4e hybride unique, j'ai l'impression que nous avons bouclé la boucle de l'expérience métamorphosis, conclut Alice. La mère et la fille quittent le chemin de ski de fond et avancent sur des pentes de plus en plus escarpées. Elles respirent l'air frais et pur de la haute montagne. Elles peuvent apercevoir Val Thorens en contrebas avec quelques aérials qui volent en emportant des skieurs. Dorénavant, tous les événements qui vont se dérouler ne seront que les fruits issus des graines que nous avons semées. Les graines blanches liées à l'air, les graines bleues liées à l'eau, les graines noires liées à la terre, et l'unique graine jaune liée au feu. C'est à ce moment qu'elle remarque que la fonte des neiges a révélé le cadavre d'un ours conservé par le froid.